Sutra de la pleine conscience de la respiration. Première partie. Voici ce que j'ai entendu. À cette époque, le Bouddha résidait à Savatthi, dans le parc de l'Est, avec de nombreux disciples connus et réalisés, y compris Sariputra, Mahamoggallana, Mahakassapa, Mahakakayana, Mahakotita, Mahakapina, Marakenda, Anuruddha, Rewata et Ananda. Les Bhikshus les plus anciens dans la communauté enseignaient avec diligence à ceux qui débutaient dans la pratique, certains aînés s'occupaient de 10 étudiants, d'autres de 20, de 30, voire de 40, de cette façon, les Bhikshus débutants faisaient de grands progrès. Cette nuit-là, c'était la pleine lune, et la cérémonie du Pavarana marquait la fin de la retraite de la saison des pluies. Le Seigneur Bouddha, l'éveillé, était assis en plein air, et ses disciples, les Bhikshus, étaient regroupés autour de lui. Après avoir parcouru l'assemblée du regard, il commença à parler. « Vénérable Bhikshus, je suis heureux de contempler les fruits de votre pratique. Et je sais que vous pouvez faire encore plus de progrès. Ce que vous n'avez pas encore atteint, vous pouvez l'atteindre. Ce que vous n'avez pas encore réalisé, vous pouvez le réaliser parfaitement. Pour encourager vos efforts, je resterai ici jusqu'à la prochaine pleine lune. » Quand ils surent que le Seigneur Bouddha demeurerait à Savatthi un mois de plus, des Bhikshus de tout le pays affluèrent pour étudier avec lui. Les moines supérieurs, les Bhikshus les plus avancés, continuèrent à enseigner aux nouveaux frères avec encore plus d'ardeur. Certains en instruisaient 10, d'autres 20, d'autres 30, d'autres jusqu'à 40. Ainsi, les débutants furent capables, peu à peu, de poursuivre leur progrès dans la compréhension. Quand le jour de la pleine lune suivante arriva, le Bouddha, assis sous le ciel, parcourut l'assemblée du regard et commença à parler. Vénérable Bhikshus, votre communauté est pure et bonne. En son sein, nul besoin de bavardage prétentieux et inutile, en conséquence, il lui revient de recevoir des offrandes et d'être considéré comme un champ de mérite. Une telle communauté est rare, et tout pèlerin qui la cherche, aussi long que soit le voyage qu'il doit accomplir, la trouvera digne de lui. Ô Bhikshus, il y en a parmi vous qui ont déjà réalisé le fruit de l'état d'Araha, détruit chaque racine de l'affliction, déposé tout fardeau, et atteint la compréhension juste et l'émancipation. D'autres, parmi vous, ont déjà brisé les 5 premiers liens de l'esclavage et réalisé le fruit du non-retour dans le cycle de la naissance et de la mort. Il y a ceux qui se sont libérés des 3 premiers liens de l'esclavage et ont réalisé le fruit du dernier retour. Ils ont coupé les racines de l'avidité, de la haine et de l'ignorance, et n'ont besoin de retourner qu'une seule fois dans le cycle de la naissance et de la mort. Il y a ceux qui se sont libérés des 3 liens de l'esclavage et ont atteint le fruit de l'entrée dans le courant, se dirigeant fermement vers l'état d'éveillé. Il y a ceux qui pratiquent les 4 fondements de la pleine conscience. Il y a ceux qui pratiquent les 4 efforts justes et ceux qui pratiquent les 4 bases du succès. Il y a ceux qui pratiquent les 5 facultés, ceux qui pratiquent les 5 pouvoirs, ceux qui pratiquent les 7 facteurs de l'éveil, et ceux qui pratiquent le noble octuple sentier. Il y a ceux qui pratiquent la bonté, ceux qui pratiquent la compassion, ceux qui pratiquent la joie, et ceux qui pratiquent l'équanimité. Il y a ceux qui pratiquent les 9 contemplations, et ceux qui pratiquent l'observation de l'impermanence. Il y a aussi des Bhikshus qui pratiquent la pleine conscience de la respiration. Deuxième partie. Au Bhikshus, la méthode de pleine conscience de la respiration, développée et pratiquée de façon continue, apportera d'immenses satisfactions et de grands avantages. Elle conduira à la réussite dans la pratique des 4 fondements de la pleine conscience. Si la méthode des 4 fondements de la pleine conscience est développée et pratiquée de façon continue, elle mènera à la réussite dans la pratique des 7 facteurs de l'éveil. Les 7 facteurs de l'éveil, s'ils sont développés et pratiqués de façon continue, provoqueront l'apparition de la compréhension et de la libération de l'esprit. Comment développer et pratiquer de façon continue la méthode de la pleine conscience de la respiration afin que la pratique soit gratifiante et produise un grand bénéfice? Voici comment il faut faire, Bhikshus. Le pratiquant se rend dans la forêt ou au pied d'un arbre ou en tout autre endroit isolé et il s'assoit de manière stable dans la position du lotus, tenant son corps très droit. En inspirant, il sait qu'il inspire, en expirant, il sait qu'il expire. 1. En inspirant longuement, il se dit qu'il sait, j'inspire longuement. En expirant longuement, il sait, j'expire longuement. 2. En inspirant brièvement, il se dit qu'il sait, j'inspire brièvement. En expirant brièvement, il sait, j'expire brièvement. 3. J'inspire et je suis conscient de tout mon corps. J'expire et je suis conscient de tout mon corps. Il pratique ainsi. 4. J'inspire et j'apaise mon corps. J'expire et j'apaise mon corps. Il pratique ainsi. 5. J'inspire et je me sens joyeux. J'expire et je me sens joyeux. Il pratique ainsi. 6. J'inspire et je me sens heureux. J'expire et je me sens heureux. Il pratique ainsi. 7. J'inspire et je suis conscient des formations mentales en moi. J'expire et je suis conscient des formations mentales en moi. Il pratique ainsi. 8. J'inspire et j'apaise les formations mentales en moi. J'expire et j'apaise les formations mentales en moi. Il pratique ainsi. 9. J'inspire et je suis conscient de mon esprit. J'expire et je suis conscient de mon esprit. Il pratique ainsi. 10. J'inspire et je rends mon esprit heureux. J'expire et je rends mon esprit heureux. Il pratique ainsi. 11. J'inspire et je concentre mon esprit. J'expire et je concentre mon esprit. Il pratique ainsi. 12. J'inspire et je libère mon esprit. J'expire et je libère mon esprit. Il pratique ainsi. 13. J'inspire et j'observe la nature impermanente de tous les dharmas. J'expire et j'observe la nature impermanente de tous les dharmas. Il pratique ainsi. 14. J'inspire et j'observe la disparition du désir. J'expire et j'observe la disparition du désir. Il pratique ainsi. 15. J'inspire et je contemple la cessation. J'expire et je contemple la cessation. Il pratique ainsi. 16. J'inspire et je contemple le lâcher prise. J'expire et je contemple le lâcher prise. Il pratique ainsi. La pleine conscience de la respiration, développée et pratiquée de façon continue suivant ces instructions, sera gratifiante et d'un grand bénéfice. Troisième partie. Comment doit-on développer et pratiquer de façon continue la pleine conscience de la respiration afin de réussir dans la pratique des quatre fondements de la pleine conscience? Quand le pratiquant inspire ou expire longuement ou brièvement, conscient de sa respiration ou de tout son corps, ou avec la conscience qu'il apaise tout son corps, il se maintient paisiblement dans l'observation du corps dans le corps tout en persévérant, pleinement éveillé, comprenant clairement son état, étant au-delà de tout attachement et aversion pour cette vie. Dans ce cas-là, inspirer et expirer en pleine conscience appartient au premier fondement de la pleine conscience, à savoir le corps. Quand le pratiquant inspire ou expire avec la conscience de la joie ou du bonheur, ou avec la conscience des formations mentales, quand le pratiquant inspire ou expire afin d'apaiser les formations mentales, à ce moment-là il se maintient paisiblement dans l'observation des sentiments dans les sentiments tout en persévérant, pleinement éveillé, comprenant clairement son état, étant au-delà de tout attachement et aversion pour cette vie. Cet exercice de respiration consciente appartient au second fondement de la pleine conscience, à savoir les sentiments. Quand le pratiquant inspire ou expire avec la conscience de l'esprit, pour apaiser celui-ci, pour le garder concentré, ou pour le désenchaîner et le libérer, à ce moment-là il se maintient paisiblement dans l'observation de l'esprit dans l'esprit tout en persévérant, pleinement éveillé, comprenant clairement son état, étant au-delà de tout attachement et aversion pour cette vie. Sans la pleine conscience de la Respiration, il ne peut y avoir développement de la stabilité méditative et de la compréhension. Quand le pratiquant inspire ou expire et contemple l'impermanence fondamentale ou la disparition essentielle de tous les dharmas, la cessation ou le lâcher-prise, à ce moment-là il se maintient paisiblement dans la conscience des objets de l'esprit dans les objets de l'esprit tout en persévérant, pleinement éveillé, comprenant clairement son état, étant au-delà de tout attachement ou aversion pour cette vie. La pratique de la pleine conscience de la respiration, si elle est développée et pratiquée de façon continue, conduira au parfait accomplissement des quatre fondements de la pleine conscience. Quatrième partie. Qui plus est, s'ils sont développés et pratiqués de façon continue, les quatre fondements de la pleine conscience conduiront au maintien parfait dans les sept facteurs de l'éveil. Comment cela se peut-il? Quand le pratiquant pourra maintenir, sans distraction, la pratique de l'observation du corps dans le corps, des sentiments dans les sentiments, de l'esprit dans l'esprit et des objets de l'esprit dans les objets de l'esprit, quand il persévérera, pleinement éveillé, en comprenant clairement son état, alors, étant au-delà de tout attachement ou aversion pour cette vie, dans une stabilité méditative imperturbable, tenace et résolue, il atteindra le premier facteur de l'éveil, à savoir la pleine attention. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Quand le pratiquant pourra demeurer dans la stabilité méditative sans être distrait et sera capable d'inspecter profondément tout dharma, tout objet de l'esprit qui apparaît, alors, le second facteur de l'éveil, le facteur de l'inspection des dharmas, sera né et développé en lui. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Quand le pratiquant pourra observer et inspecter tout dharma d'une façon constante, persévérante et durable, sans être distrait, le troisième facteur de l'éveil sera né et développé en lui, le facteur de l'énergie. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Quand le pratiquant aura atteint un maintien imperturbable et stable dans le courant de la pratique, le quatrième facteur de l'éveil sera né et développé en lui, le facteur du ravissement au-delà du monde quotidien. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Quand le pratiquant pourra demeurer sans distraction dans l'état de ravissement, il sentira son corps et son esprit léger et pacifié. Alors, le cinquième facteur de l'éveil sera né et développé, le facteur de la légèreté et de la paix. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Quand, à la fois, son corps et son esprit seront légers et pacifiés, le pratiquant pourra aisément connaître la concentration. À ce moment-là, le sixième facteur de l'éveil sera né et développé en lui, le facteur de la concentration. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Quand le pratiquant demeurera dans la concentration avec un calme profond, il cessera de discriminer et de comparer. À ce moment-là, le septième facteur de l'éveil sera libéré, naîtra et se développera en lui, le facteur d'équanimité. Quand ce facteur sera atteint, il croîtra jusqu'à la perfection. Ainsi, les quatre fondements de la pleine conscience, s'ils sont développés et pratiqués continuellement, conduiront au maintien parfait dans les sept facteurs de l'éveil. Cinquième partie. Comment les sept facteurs de l'éveil, s'ils sont développés et pratiqués de façon continue, peuvent-ils conduire au parfait accomplissement de la compréhension vraie et à la libération complète ? Si le pratiquant suit le chemin des sept facteurs de l'éveil, vivant dans la solitude tranquille, observant et contemplant la disparition de tous les dharmas, il développera la capacité du lâcher-prise. Ce sera la conséquence d'avoir suivi le chemin des sept facteurs de éveil et cela conduira à l'accomplissement parfait de la compréhension vraie et à la libération complète. Sixième partie. C'est ce que le Seigneur, l'éveillé, déclara, et chacun dans l'assemblée fut rempli de gratitude et de joie à l'écoute de ses enseignements.